La pause maternelle. Nous voilà de retour pour un bonus. J'allais dire petit bonus, mais avec nous, on ne sait jamais si ce sera petit ou grand.
Oh, mon Dieu.
Pour continuer notre belle discussion sur la liberté des femmes, les cheminements, les choix aussi. On a parlé de choix. Et je voulais rebondir sur la fin de l'émission en expliquant que avant d'avoir 3 enfants, avant même que je sois maman, je ne voulais qu'un seul enfant. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là?
Oui, moi j'allais te dire ça quand même, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose, tu vois. Voilà.
Oui, hors antenne, tu m'as dit quelque chose, mais qui ne passera pas à l'antenne. Mais voilà, pour vous dire que oui, il y a eu un cheminement qui s'est fait. En fait, je me suis découvert une réelle passion pour la maternité. En fait, je me suis construite dans mon rôle de mère. Mais j'ai compris en devenant maman que, en fait, ma vie avait un sens. Et aujourd'hui, le sens de ma vie, c'est... alors, évidemment, il y a mon rôle de femme, hein, de femme à part entière que je suis, qui prend place, parce que l'équilibre entre la vie de mère et la vie de femme n'est pas toujours facile à trouver. Mais voilà, je me suis retrouvée à m'épanouir pleinement dans ce rôle de maman. Et c'est vrai qu'elle a, quand ma grande est née, j'ai tout de suite senti ce besoin viscéral. Vraiment, c'était ça, d'avoir un deuxième très rapidement. Voilà, et c'est sûr que quand je repense à la Élodie de 15-20 ans qui voulait un seul enfant, parce que comme Lucille, comme toi, je voulais... Très vite, je savais que je voulais un enfant. Enfin, je voulais être mère. Mais voilà.
Oui, parce qu'il faut. Quand on dit ça, nous, on a décidé que patati patata. Déjà, c'est nos besoins qui parlaient à ce moment-là,
oui, oui.
Pour qu'on soit bien d'accord. Et de l'autre côté, c'est pas non plus pour dire à celles qui ne veulent pas d'enfants que c'est pas bien ou quoi
c'est
que
des
ce soit.
Choix.
C'est des choix. Je pense que chacune est libre de décider aussi et de faire ces choix-là. Après, il y a des fois des difficultés. Non, moi, j'arrête pas de dire que ouais, c'est pas parce que j'ai décidé que j'allais avoir 4 enfants que ça n'a pas été difficile, parce que ma première grossesse a été une grossesse extra-utérine. Donc, pour vous dire, en réalité, j'ai eu 5 grossesses et il y en a une qui a failli très, très mal se terminer. C'était ma première. Donc, c'est pas parce qu'on veut qu'on a exactement comme on voudrait aussi. C'est juste pour remettre un petit peu les trucs, parce que je sais que des fois, et c'est le propre des médias, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout expliquer. Il faudrait toute une vie pour tout expliquer à tout le monde ce qu'on a exactement dans la tête. Donc, faisons preuve d'ouverture sur ce qu'on est en train de dire là aussi dans l'émission, sur nos propres choix personnels aussi, parce qu'on ne vous dit pas tout, et c'est normal parce qu'il y a notre vie privée, mais on ne vous dit pas tout aussi parce qu'on ne peut pas tout dire. Même toutes les choses qui nous passent par la tête. Voilà.
Oui. Mais voilà, pour en revenir un peu par rapport à ce cheminement-là, c'est vrai que, en fait, c'est pas que j'ai voulu des enfants. C'est pas que tôt, je savais que je voulais des enfants. C'est surtout que tôt, je savais que je voulais construire ma famille.
Oui,
parce que dans
ton propre nom.
Voilà, parce que voilà, c'est de l'ordre de ce que j'ai vécu. Je me sentais pas à ma place dans ma famille. Et donc, du coup, j'ai voulu construire ma famille pour prendre ma place dans ma famille. Voilà, donc pour expliquer un petit peu mon cheminement. Et du coup, je suis passée d'un désir de un enfant à aujourd'hui 4 enfants.
Ouais.
Qui peut-être le quatrième ne sera jamais. Hein. Ou peut-être qu'on adoptera un chien ou pour répondre à mon besoin. On ne sait pas.
Là, du voilà. Coup, le lien entre l'enfant et le chien, là, je t'avoue que c'est...
Incompréhensible.
Alors, Élodie était soignée animalière.
Donc, oui, voilà.
Elle fait des liens très, très particuliers. On a souvent des discussions comme ça qui font des liens comme ça entre l'animal et l'être humain qui est aussi un animal.
Voilà, on est des animaux, faut pas l'oublier.
Oui, non, mais alors tu vas pas pouvoir l'expliquer tout le temps comme ça non plus, Élodie.
Non. L'émission serait trop courte pour l'expliquer, mais voilà. Non, okay. Tout ça pour dire que, voilà, encore une fois, on a chacune notre cheminement et chaque cheminement est légitime en fait. Faut pas culpabiliser du cheminement qu'on a.
Je pense qu'il faut savoir pourquoi, surtout.
Oui, c'est ça.
Pourquoi est-ce que du coup on a cette envie-là? Pourquoi est-ce qu'on choisit ça? Et une fois qu'on sait pourquoi, du coup on aura plus envie d'avancer dans la direction. C'est là que le choix va être beaucoup plus déterminant et va être beaucoup plus clair pour nous. Et que du coup, quand je parle des obstacles, ça peut être le monde extérieur, ça peut être son monde intérieur, ça va être beaucoup plus facile parce qu'on va savoir ce qu'on a vraiment envie de faire et comment est-ce qu'on a envie de le faire et comment est-ce qu'on a envie de l'accomplir aussi. Et ça, je pense que c'est pour n'importe quel être humain, c'est pas que les femmes ou quoi que ce soit, mais regarder un enfant lorsque du coup il décide de monter sur une chaise pour aller prendre, je ne sais pas moi, des bonbons sur l'étagère, là, il y a un réel besoin et aussi une réelle envie de faire quelque chose. Et il va trouver tout le stratagème, c'est-à-dire d'aller prendre la chaise, de la pousser, de faire ça, même tout petit qu'il est, pour aller prendre les bonbons et pouvoir assouvir son besoin.
Exactement.
Donc, on arrive à trouver des solutions, mais le chemin trouve toute sa clarté lorsque l'on comprend exactement ce qui nous tiraille au fond. Donc, vraiment, je vous invite à faire une introspection. Si ce n'est pas accompagné par un professionnel de santé ou par une doula, pour tout ce qui est psycho-émotionnel, déjà seul avec un carnet et essayer de poser les questions de pourquoi.
Ouais, le pourquoi. Ça reste la fondation du choix. C'est le pourquoi qui va vous guider dans votre choix et forcément, si vous n'avez pas ce pourquoi-là, peut-être que le choix ne sera pas forcément adapté à votre cheminement, à vos besoins, à vos envies, enfin voilà.
Et après, ce n'est pas parce qu'on a choisi que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir certains regrets certains jours. Parce que moi, j'avais aussi envie de dire que ce n'est pas toujours au beau fixe. Ce n'est pas parce que du coup, moi, je sais que j'ai, avec mes 4 enfants, je suis très contente de les avoir faits. Je suis très contente de les voir grandir, de les voir évoluer. Il y a des jours, je ne suis pas contente du tout de les voir, hein. Il y a des jours, j'ai pas du tout envie de les voir parce que ça me saoule, parce que je pense qu'il y a des, il faut être aussi honnête. Moi, j'ai la tendance à voir un petit peu la parentalité avec les enfants un petit peu comme une coloc. On est en coloc pendant un certain nombre d'années et je sais pas si vous avez déjà été en colocation. Le colocataire ou la colocataire, on la supporte pas tout le temps, en fait. Tout simplement parce qu'on est des êtres humains aussi. Mmh. Et que du coup, il y a des fois, on est mal luné, des fois, on est bien luné, des fois, c'est l'autre. Des fois, il y a des choses qui nous mettent en tension. Et chacun aussi a son bagage d'expérience, a son bagage éducatif, a sa propre histoire, a son propre vécu. Et nos enfants aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est nos enfants qui ne sont pas notre propriété, qu'on soit bien d'accord. On les accompagne. Eh bien, même sur toute une fratrie, ils ne vont pas avoir pris exactement les mêmes choses de ce qu'on leur aura dit et de leur environnement et de ce qu'ils auront observé. Donc, ils vont avoir des réactions qui vont être totalement différentes de peut-être de ce qu'on aurait pu penser. Des fois, ça va venir nous frottouiller un petit peu parce que ça répond aussi à des choses qui sont à l'intérieur de nous qu'on n'a pas encore résolues.
Ça vient titiller des choses.
Ça vient titiller nos besoins. Et donc, du coup, comme on vit en coloc, il y a des fois, c'est supportable. Et il y a des fois, c'est insupportable. Oui. Et c'est pas grave. Juste, c'est important de comprendre qu'une relation humaine normale n'est pas tout le temps dans le super méga bonheur et qu'on n'est pas des êtres parfaits et des Wonder Woman et des Wonder Kids. Ça n'existe pas.
Donc, et puis, je pense aussi que, quand je t'écoute, ça me fait penser à... J'ai une image en tête, c'est l'enfant qui voit le bouton du truc qui va venir nous déclencher, en fait. Et qui va se dire « Oh tiens, c'est rigolo ce bouton, qu'est-ce que ça va faire ?» Alors évidemment, c'est inconscient chez lui, mais il ressent quelque chose. Et là, je pense qu'il y a ce besoin de comprendre aussi de si je viens titiller ça, comment mon parent va réagir en fait.
Alors moi, c'est du coup, là c'est inversé pour moi l'intentionnalité de l'enfant. L'enfant n'a pas cette intention-là pour moi au départ. Non mais l'intention inconsciente.
Ah ok.
Il n'a pas forcément cette intention inconsciente d'aller titiller le parent ou quoi que ce soit. Je pense que ça, c'est beaucoup dans notre éducation d'adulte, enfin en tout cas d'enfant, et la manière dont on a été éduqué, qu'on perçoit aussi cette manière-là de l'intention de l'enfant. L'enfant, il est là, et il titille rien, il vit en fait tout simplement.
Oui. Il fait des expériences.
Il fait des expériences et il a besoin de contrôler et de comprendre ce qui va se passer dans son monde extérieur pour pouvoir... Il a besoin de la forme de contrôle qu'il a envie d'avoir. Et du coup, ça a été dévoyé en parlant d'enfant roi et compagnie. Mais non, La forme de contrôle qu'il a envie d'avoir, c'est sur son propre environnement, déjà son corps et déjà l'extérieur, de comprendre comment ça se passe pour pouvoir emmagasiner les différentes informations et évoluer correctement et donc ne pas arriver et, comme j'appelle, entre guillemets, à décapsuler à l'âge adulte parce qu'en fait, il n'aura rien perçu du monde. Donc lui, pour lui, c'est ça. Mais pour nous, qui avions déjà des interprétations et tout ça d'adultes, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout, comme je le dis, comme on n'a pas résolu des trucs internes, que du coup, on n'a pas apprivoisé nos émotions. Lorsque l'enfant appuie quelque part, on se sent agressé. Oui. Et donc du coup, on se dit, il vient faire. Il vient rien faire du tout. Il a appuyé sur un truc, mais en fait, il savait même pas qu'il appuyait. C'est toi qui, du coup, est pas bien là, à ce moment-là. Et c'est important. Moi, ça m'arrive souvent avec ma grande, souvent, parce que voilà, on se chicane un peu de temps à autre, mais on se chicane. Il y a jamais un mot plus haut que l'autre. Il y a jamais un truc comme ça. Juste, on sent de la tension d'un coup. Et en fait, c'est une incompréhension. Et là, c'est nos besoins qui parlent les uns aux autres. Oui. Alors, nos personnages, parce que moi, je fonctionne avec les archétypes de Jung. Donc, du coup, le personnage public va parler à l'autre personnage public. Puis finalement, on va dans la sous-couche personnage intime. Et là, du coup, sur l'intimité, sur l'enfant intérieur et tout ça. Enfin bref, tous les trucs de développement personnel vous ont parlé de l'enfant, du personnage de l'enfant intérieur. Et surtout, on n'a pas parlé du personnage de l'ombre, celui dont on parle jamais. Ouais. Et c'est lui qui est titillé par l'enfant lorsqu'il arrive. C'est lui qui fait genre, non, mais moi, je suis pas d'accord pour que tu me parles comme ça, pour que tu fasses comme ça, parce que ça fait ressortir énormément de choses. Donc, plus que l'enfant titille, en fait, c'est nous, qu'est-ce qui fait que du coup, on va être titillé?
Oui, c'est ça.
Et se préparer psychologiquement, en sachant qu'on peut essayer de visualiser autant qu'on veut, autant qu'on peut. On ne peut pas tout préparer non plus.
Oui, c'est sûr, exactement.
Donc, voilà.
Après je trouve qu'il y a une chose qui est assez puissante dans ces moments-là, c'est la verbalisation. C'est chose qu'on n'a pas appris
non.
à verbaliser ce qu'on ressent. Et pourtant, ça fait tellement du bien, même avec des enfants, en fait.
Oui.
Leur expliquer, je suis en colère parce que un tel m'a grillé la priorité ou lui expliquer pourquoi on est dans cet état. Ou alors même verbaliser, là, je me sens pas bien, je sais pas pourquoi.
Oui.
C'est OK aussi. Voilà.
Oui, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Parce qu'en fait, les enfants, il y a des fois où ils n'arrivent pas à dire pourquoi. Et on a besoin, nous, dans notre monde, de trouver toujours des solutions et des réponses à tout. Et en fait, des fois, on ne sait pas. Et oser dire aussi, être un petit peu humble et aussi dire je ne sais pas non plus, ça lui montre dans les actes qu'on est faillible et qu'en fait, on peut ne pas tout savoir, qu'on n'est pas omnipotent, qu'on ne sera pas tout le temps là à tout savoir non plus, et qu'on peut chercher les solutions ensemble. Ça, je trouve que déjà, c'est plus que de verbaliser, c'est communiquer et co-construire un espace de discussion entre le parent et l'enfant. Mais déjà, il faut déjà commencer avec soi-même, commencer après avec le couple, puis après avec l'enfant. Et puis l'enfant 1 va faire ressortir tel truc, mais l'enfant 2 va arriver et va débloquer deux, trois choses aussi. Et puis 3, 4, et plus il y en aura en fait, de toute façon, cherchez
plus
pas.
Ça va,
Cherchez pas, parce que vous allez évoluer. Vous n'êtes pas la même lorsque vous avez accouché la première fois, de la deuxième et de la troisième. Vous avez dit, maintenant vous me laissez tranquille, je sais comment faire, je vais l'allaiter. Bref, d'ailleurs, même le personnel soignant ne se conduit pas exactement de la même manière.
Oui.
Parce que pour les premières, elle risque d'être paniquée. Donc on va être là quand même pour pouvoir la soutenir. La troisième, il n'y a plus personne. Moi, j'avais ma bouilloire, j'avais toutes mes affaires.
Ah, moi, le troisième, j'ai quand même, à un moment donné, on a commencé à me faire me dire, faut le mettre comme si ou sein, machin. Je les ai regardés et je leur ai dit, c'est très gentil, merci, c'est mon troisième que j'allaite. Ça fait, à l'époque, ça faisait six ans que j'allaitais. Et en fait, juste leur dire, ça fait 6 ans que j'allaite, j'ai pas besoin de votre aide, merci. Ben, en fait, je les ai pas vus de tous ces jours.
Alors,
comme ça, j'étais tranquille.
Moi, je les ai pas beaucoup vus, mais finalement, on a plus échangé parentalité.
Ouais.
Du coup, sur leur propre parentalité, comment est-ce qu'elles voyaient leur métier. Alors, c'est souvent des femmes, c'est pour ça que je dis elles, mais comment est-ce qu'elles voyaient leur métier d'accompagnement aussi des femmes qui venaient d'accoucher, les fragilités et tout ça, les mamans dans le monde aussi, parce que moi, je suis passionnée par la maternité dans le monde, parce que je pense qu'on peut regarder aussi ailleurs que
comment
par le trou de leur lorgnette pour se dire, en fait, ailleurs, ça se passe autrement
Et on peut s'inspirer d'ailleurs aussi.
Voilà, ça nous donne une forme de liberté.
Pourquoi ailleurs ça fonctionne et ça ne fonctionnerait pas chez nous pareil.
Oui, et comment est-ce qu'on pourrait l'adapter sans en enlever toute la substance aussi, comme on peut avoir tendance à faire. Ça peut être intéressant de ne pas enlever toute la substance de la chose et de comprendre aussi et la culture et l'environnement. Encore une fois, c'est une question d'environnement dans lequel ça a été fait. Exactement. Et je pense que c'est pareil. Alors, on revient à chaque fois sur cette thématique-là, sur les familles nombreuses, mais n'empêche que ce n'est pas vu de la même manière dans certains pays d'être dans une famille nombreuse que ça peut l'être aussi en France, où ça peut être vraiment quelque chose de très particulier, en fait, alors que j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Mais peut-être que parce que j'en côtoie plus, je ne sais rien, ou à mon contact, vous avez envie de faire plein de bébés, j'en sais rien, mais n'empêche que je vois qu'il y a de... Alors, malgré les chiffres qui baissent en plus sur la natalité et compagnie, mais n'empêche que autour de moi, je vois plein de femmes qui ont de nouveau cette envie-là, par contre, qui peuvent être freinées, soit par le conjoint, soit par elles-mêmes, leurs pensées, et puis aussi sur les peurs, aussi au niveau écologique, tout simplement. Oui. Parce que, moi, on m'a dit que ce n'était pas forcément quelque chose d'écologique.
Oui.
Est-ce que j'entends complètement aussi, hein. Est-ce que j'entends complètement oui. Parce qu'il y a une empreinte aussi, je veux dire, chaque être qui respire sur cette terre a une empreinte. Après, comment est-ce qu'on les éduque ?
Exactement.
Comment est-ce qu'on...
C'est souvent ce que je réponds, c'est qu'on peut avoir plusieurs enfants et les éduquer dans l'écologie.
Oui.
Et avoir un seul enfant et éduquer son enfant dans « on s'en fout de la planète », qui fera peut-être plus de dégâts que trois enfants élevés dans l'écologie.
Oui, qui ont peut-être une empreinte carbone qui sera vraiment, vraiment minime par rapport à d'autres familles où il n'y a peut-être qu'un seul enfant et compagnie. Je pense qu'il y a un essai comme ça qui est sorti d'un sociologue là-dessus, justement, sur l'écologie. Autour du fait ou pas d'avoir des enfants. Si j'arrive à vous retrouver le nom, je vous le mettrai en lien. Et je trouvais que c'était très intéressant. Pas dans le côté, c'est un livre pour te faire déculpabiliser parce que du coup, tu as plein d'enfants. Non, au contraire. Moi, j'aime bien me confronter à la parole qui peut être diverse là-dessus. Et je trouvais que c'était intéressant de montrer que ça peut être écologique si on le pense aussi écologique, si on essaie de faire les choses correctement aussi et en se renseignant aussi. Ça sert à rien de dire on est vachement nombreux sur cette planète si après le tout nombreux qu'on est, on ne fait rien non plus pour essayer de la sauver, pour essayer de la protéger et compagnie. En apprenant à nos enfants à faire de telle ou telle manière, ça peut aussi être une manière d'envisager les choses. Donc ça, c'est pour le côté écologique. Je pense que ça mérite quand même d'y réfléchir, de se pencher dessus. Il y a pas mal d'ouvrages et d'essais qui parlent de ça, notamment en sociologie, anthropologie. Je pense que ça peut être intéressant si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu ce qui se passe. L'autre aspect, c'est le bruit.
Ah oui, ça, oui.
Il y a deux aspects. Le fait de vouloir reporter un enfant.
Oui.
C'est pas parce qu'on a envie d'avoir d'autres enfants que du coup, on aime être enceinte.
Oui.
Voilà, aussi. Faut dissocier le truc, hein, parce qu'être enceinte, ça peut être une grande partie de plaisir pour certaines. Pour d'autres, ça peut être un calvaire. Je suis bloquée dans mon canapé avec le nerf crural qui pince sans arrêt. Donc... clairement, voilà.
Et c'est OK aussi. C'est OK de ne pas aimer être enceinte.
Enfin, complètement.
Il n'y a pas de règles.
Non, mais attendez.
Les émotions, il n'y a pas de règles.
C'est comme ce que disait Charlotte Gainsbourg dans... c'était Embrasse-moi si tu peux. Non, c'était le film avec Alaa Shaba où du coup, elle se marie. Enfin bref. Et du coup, elle dit non, mais moi, la gerbe, les seins qui pètent, les choses comme ça, j'ai pas envie. Par contre, j'ai envie d'adopter. Je trouve que c'est tout à fait OK aussi et qu'on peut adopter plein d'enfants et que ça reste quand même une famille nombreuse aussi. C'est son propre choix aussi. On peut ne pas vouloir porter d'enfants. Ça dure 9 mois. Une grossesse, en gros, quand on imagine, hein, quand on conceptualise encore une fois, tout ça, ça dure 5 ans quand même. Parce qu'il y a le fait de visualiser la grossesse, le fait d'être enceinte, le fait d'accoucher, c'est quand même déjà pas mal. Après, il y a le postpartum qui dure 3 ans. Tout ça, là, ça a une ligne de temps de 5 ans. Donc, est-ce qu'on a envie de passer 5 ans par enfant à chaque fois, en sachant que des fois, on peut les faire un peu rapprocher et compagnie, que ça, c'est aussi fatigant pour soi, pour le corps, pour la tête, pour... plein d'autres choses, en fait. Et c'est pas le monde des bisounours, quoi, d'avoir des enfants et compagnie. C'est pas une obligation de faire des enfants, mais c'est quelque chose qui est à réfléchir dans le sens où, pas si on se sent les épaules, mais de comment est-ce qu'on se sent aussi face à cette décision. Oui. Et il y a des fois où cette décision peut être inconfortable, même quand on l'a prise. Et il y a des fois où elle peut être juste la plus belle expérience de toute sa vie, parce qu'on grandit auprès de d'êtres vivants et de petits humains qui sont merveilleux, qui ne vont pas arrêter de nous apprendre aussi des choses avec lesquelles on ne va pas arrêter d'échanger.
Exactement.
C'est une expérience humaine, en fait. Voilà.
Et pour finir sur ce bonus, parce qu'il va être temps aussi qu'on termine, malheureusement, on resterait plus longtemps avec vous, mais il faut quand même conclure le sujet. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, ou alors on a juste survolé, c'est les femmes qui ne veulent pas d'enfants. Oui. Le jugement que ces femmes reçoivent de quoi, t'as 30 ans, t'as toujours pas d'enfant. Ce genre de jugement, derrière, il y a un impact chez la personne parce qu'elle a ses propres raisons. Ça peut être par choix parce qu'elle n'a pas envie d'enfant. Ça peut être aussi pour des raisons médicales parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant.
Et qu'elle est en parcours ou pas.
Qu'elle est en parcours. Et ce genre de remarques qui peuvent vous paraître, vous, anodines, ont un impact émotionnel énorme sur la femme qui reçoit cette remarque-là.
Ça peut être des psychotraumas aussi, hein, qu'on
Exactement.
Soit bien d'accord. Il y a des femmes aussi, mais dans les deux cas.
Oui.
Je trouve que dans les deux extrêmes du spectre, c'est-à-dire avoir une famille nombreuse ou alors ne pas avoir d'enfants.
Il peut y avoir des traumas.
De toute façon, à chaque espace, à un moment donné, on peut être jugé, tout simplement parce qu'on est maman déjà, et que du coup, il y a tout un imaginaire collectif autour de la maternité.
On aime bien en France, le jugement.
Et ça, ça peut être vraiment épuisant, et je pense qu'il faut quand même revenir un petit peu en conscience sur le fait que une femme qui choisit d'avoir plein d'enfants, elle choisit d'avoir plein d'enfants, mais ça ne veut pas dire qu'il faut la laisser non plus dans sa mouise si elle est en difficulté. Elle a le droit d'être en difficulté, même si elle a fait ce choix-là. Ce n'est pas parce qu'on a fait un choix, et c'est là que ça rejoint l'individualisme pour moi, c'est qu'elle fait un choix, mais si à un moment donné elle a besoin d'aide, c'est un être autonome, et donc du coup on peut lui apporter de l'aide aussi, tout simplement par intelligence empathique.
Ouais.
Une femme qui décide d'en avoir qu'un, elle décide d'en avoir qu'un. Et si elle est en difficulté, on l'aide aussi, tout simplement. Parce que ça fait partie du chemin. Et que si on a envie de créer tout un village, il faut aussi y mettre un petit peu du cœur et arrêter de regarder avec mépris lorsqu'une femme est en difficulté dans sa maternité. C'est tout. Et si elle décide de ne pas avoir d'enfants, eh ben c'est pareil. Les femmes qui ont des enfants, de ne pas mépriser celles qui n'en ont pas. Et ceux qui en ont, ou alors qui n'en ont pas, mais vont quand même avoir un avis sur le fait qu'une femme doit ou pas ne pas avoir des enfants ou plusieurs enfants, déjà, ça n'est pas votre utérus.
Oui.
Ça n'est pas votre corps. Ça n'est pas vous qui décidez. Donc, si cette personne-là n'a pas d'enfants, elle a ses propres raisons, ses propres choix, et il faut l'entendre. Et ça aussi, ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Et je pense que l'intelligence émotionnelle, donc l'intelligence aussi empathique, ça fait partie des formes d'intelligence qui sont à cultiver, et encore plus dans la maternité, quand on connaît les chiffres aussi et l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale des femmes, mais aussi des enfants, parce qu'il y a des répercussions aussi sur la santé des enfants, parce que ce sont des micro-violences. Alors, on peut les appeler comme ça, mais entre les guillemets, mais c'est des violences qui sont ressenties dans l'environnement et qui ont un impact. Et des fois, l'impact peut ressurgir à l'âge adulte. Et on peut se dire, mais pourtant, quand il était enfant, il avait l'air de bien aller et bam, d'un coup.
Quand il était enfant, c'était un enfant tout sage, tout calme, on l'entendait pas.
Voilà.
Il a aussi peut-être ses raisons.
Il a aussi peut-être ses raisons et du coup, il a aussi peut-être ses besoins.
Donc voilà, exactement.
Bref.
Sur ce, on va vous laisser sur ces,
oui.
sur ces derniers mots.
On va vous remettre la musique un petit peu.
Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à nous faire votre retour sur ce type de format, savoir si on vous en propose plus ou voilà.
Oui.
Histoire qu'on puisse s'adapter.
Est-ce que vous avez envie qu'on vous parle encore longtemps comme ça ou est-ce que du coup, vous ne supportez vraiment pas?
Est-ce qu'on vous a saoulé?
Toutes nos analyses psychologiques et nos ouvertures de personnelles.
Voilà. Et ben merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, on se retrouve le premier lundi de chaque mois, de 10h à 10h30 sur Radio Calade.
À très
bientôt.
Vite.
La pause maternelle. Ha ha ha!